Il est midi, l'heure du brunch et l'heure de Sisters. Retrouvez Julia, Louise, Marie et Romane pour une heure de débat, de chronique et de jeu. Une seule consigne, sororité et convivialité. Sisters, c'est maintenant sur Prune.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Sisters sur Prune 92 FM. Nous sommes le samedi 29 mai et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. On est en direct des studios de Prune pour une heure d'émission. Je vous rappelle le thème de Sisters, ici on parle des femmes et de la société française. On décortique un thème par mois en vous proposant du décryptage, des chroniques ou encore du débat. Le tout articulé autour d'une playlist concoctée par l'équipe. Notre volonté, apporter un regard curieux, féministe et décomplexé sur la société actuelle. Pour cette émission, je suis accompagnée de Julia et Marie. Salut les filles, ça va ?
Coucou !
Salut !
Ça va et toi ?
Ouais, nickel.
Contente de revenir à l'antenne, Marie ? Ça fait
oui.
Un petit moment qu'on t'a pas entendu.
Ça faisait trop longtemps.
Chouette. En ce jour et en cette avant-dernière émission de la saison, je ne peux que me réjouir du thème d'aujourd'hui. Julia et Marie, vous en êtes témoins. Parce qu'en effet, nous allons parler de deux sujets que j'adore, les femmes, évidemment, c'est un peu le thème de l'émission, et les médias. Ouais,
Enfin,
elle a placé son thème.
Ça fait un an qu'elle nous saoule avec ce thème.
Bah oui, ça y est, voilà. Ça y est, j'ai réussi. Et vous allez voir, il y a vraiment de quoi vraiment rigoler dans cette émission. Je vous jure, ça va être sympa. Bref, pour cette superbe émission en perspective, on est toutes les trois et nous ne sommes pas seules. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Elsa Gambin, journaliste indépendante nantaise, venue apporter son regard et son avis sur cette question. Merci à toi déjà Elsa d'être là et bienvenue, ça va ?
Ouais, ça va. Merci à vous de m'avoir invitée.
Bah de rien, écoute, je pense que ça va être chouette. Au programme de cette émission, un quiz, des chiffres, des chroniques, une playlist pop, du décryptage, une interview, bref. On a encore bien travaillé. Voilà, j'annonce la couleur.
Attention, avant pas trop de rêves non plus.
Allez, il est midi 4, Sister, c'est parti. Bon les filles, faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé, un truc de dingue, un truc qui m'était jamais arrivé, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Non, ok. Donc oui, beaucoup d'arrivées. J'étais en terrasse, un truc de fou, en terrasse l'autre jour. Et puis j'étais avec des copains, des copines et tout ça. Et là, il y a mon pote qui m'a mansplainé quoi. Tu vois, genre un mot, en gros mansplaining à base de conseils, d'explications de vie, alors que j'étais en train de parler de mon taf, voilà. Et puis en plus, il m'a manterrupté. J'ai même du mal à le dire, voilà. Comme quoi, c'est pas mon truc à moi. Et je fais même plus attention, tu vois, trop à ça. Mais mansplaining plus manterrupting, ça fait beaucoup. Et ça m'a fait vraiment chier. Et en plus de ça, vous savez pas quoi, il était en train de manspreader les trois en même temps, tu vois. Vous voyez le délire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, un pote qui manspread en mansplainant et en vous manterruptant?
Ça fait beaucoup quand même.
Non, ouais, non, pas trop. Ok. Mais attention, on me dit dans l'oreillette que la misandrie n'est pas loin. Alors non, parce qu'évidemment, j'ai des amis copains, enfin j'ai des amis hommes, évidemment. Donc non, je ne suis pas misandre. Mais bon, il y a des mecs qui sont gentils, qui ça existe, évidemment, qui ne sont pas en train de mansplainer, manspreader et manterrupter en même temps. Et qui ont plutôt tendance, pour eux, c'est plutôt, voilà, juste, ils parlent fort. Ils parlent en même temps que les autres, mais c'est pas de leur faute, en fait. Moi, c'est ce qu'on m'a dit comme argument, parce que j'en ai un petit peu discuté. Et bah, pour eux, c'est un petit peu normal, tu vois. Je vous explique un peu leur argument, parce que déjà, ils ont une voix grave. Que nous, les filles, on n'a pas trop une voix grave. Toutes les filles, hein, on n'a pas du tout des voix graves. Et puis, pas très fortes, en plus. Donc, pour eux, c'est un peu normal de s'imposer. C'est leur timbre de voix, c'est leur volume sonore, en fait. Et puis, il faut s'imposer aussi face aux autres mecs. Et ça, c'est pas évident quand on est un garçon. Donc, il faut pousser la voix, tu vois. C'est un peu à celui qui pissera le plus loin ou qui parlera le plus fort. Donc, ouais, mon pote, bah, il est sympa, tu vois, mais il m'a expliqué, c'est juste qu'il n'a pas conscience de sa voix. Et puis, il veut surtout mettre la bonne ambiance et il parle bien fort, tu vois, comme ça, tout le temps, bien fort. Ouais, super, ok. Et puis en fait, c'est, voilà, pour lui, c'est un peu le moyen de mettre la bien ambiance, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'a pas du tout l'impression de parler au-dessus des autres. Et c'est peut-être pour ça que il y a tant de garçons qui ont vraiment du mal avec ce truc de « Non, mais non, je t'interromps pas, en fait, c'est juste que je t'ai pas entendu, quoi, t'as qu'à parler plus fort, putain !» Voilà, c'est aussi ce qu'on m'a dit, c'est très sympathique. Mais voilà, en fait, cette histoire de... qui est sans doute très intéressante, je vous la vous trouvez intéressante, mon histoire.
Mmh, c'est passionnant. Que... suspense et tout.
Beaucoup de suspense, tout ça pour dire que, voilà, là, j'ai rencontré une histoire pas terrible du tout, mais personne ne m'interrompt plus. Et ça, c'est super. Et ça, c'est super. Et malgré toutes les conneries que je raconte, les filles, mes copines, mes amies, ma mère ne m'interrompt jamais. Et ça, je trouve ça super. Et ça fait du bien. Donc, merci les filles. Ce que je vous propose directement face à cette petite histoire bien sympathique, c'est de laisser la place à... une petite musique que j'aime beaucoup, qui peut sans doute expliquer tout ce que je viens de dire. Voilà, je vous laisse avec ça.
Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi, ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco si en plus elles sont costauds.
C'était Oui, c'était bien l'impératrice sur Prune. Vous êtes sur le 92 FM dans l'émission Sisters. Donc c'était l'impératrice avec Peur des filles. On adore ce titre ici, évidemment. Et voilà. Et maintenant, je lance Roman qui va nous proposer un petit quiz sur le thème du jour, les médias et les femmes, ou les femmes et les médias, on ne sait plus.
Merci Julia. Donc une fois n'est pas coutume. Et si on parlait des sujets qui fâchent avec humour et de manière ludique? Ouais, Julia, Marie, Elsa, j'espère que vous êtes prêtes à gagner un max de points. Et bon, il n'y a pas de lot de gagnantes, mais voilà, juste, ça serait cool que vous gagniez. Je rappelle le thème, la place des femmes dans les médias français et plus particulièrement les médias audiovisuels. Voilà, j'annonce un peu la couleur, je n'ai pas fait tout le tour parce qu'il y a beaucoup de médias, beaucoup de types de médias. Je me suis concentrée sur ce que j'ai trouvé comme chiffre, déjà c'est pas mal. On commence avec une première question. Lors d'un débat télévisé qui a opposé, alors là on est un peu politique, hein, mais bon voilà. Lors d'un débat télévisé qui a opposé Hillary Clinton et Donald Trump en 2016, combien de fois Trump a-t-il interrompu Clinton en 90 minutes? J'ai des propositions. Donc en 90 minutes, Trump a-t-il interrompu Clinton 32 fois, 43 fois ou 51 fois?
Moi je dirais 51.
Ouais. Ouais, 51. Moi je dirais 51 direct, ouais, c'est jouable. Ouais.
Eh bien, c'est une bonne réponse.
Oui.
Ouais, bravo. Effectivement, c'est une journaliste féministe américaine, Jessica Bennett, qui a compté, et en fait, elle s'en est rendue à 51 fois, contre, je crois, 17 fois pour Clinton. Donc, c'est là aussi où on voit l'écart de man-interrupting, comme je l'ai brillamment introduit tout à l'heure. Autre question, en 2020, en pourcentage, quelle part des femmes sont... Quelle part des femmes, alors j'ai un petit problème avec les questions. Hein. Quelle part des femmes sont présentes dans les radios et télévisions en France? Quelle est la part des femmes dans les professionnels de radio et télévision?
Ouais.
Est-ce que c'est 31%, 41% ou 51%?
Voilà, du coup, peut-être plus 31.
Normalement, ça a fait des progrès, ouais, peut-être 31. Ouais.
31?
Bah oui, je suis.
Alors, mais d'accord, merci. Eh bien non, c'est 41%. Voilà,
pas mal.
Un petit peu plus d'optimisme, s'il vous plaît. 41%. Après, j'ai pas le détail de qui fait quoi, évidemment, mais 41% de femmes présentes dans les radios et télévisions.
Ça inclut des gens de l'ombre, c'est pas forcément des oui. journalistes.
Ah non, non, non là,
oui, c'est des
personnes
qui travaillent
dans
l'audiovisuel.
Voilà.
Ok,
donc on est sur une égalité pour l'instant. Toujours en 2020, combien de temps de parole ont eu les femmes dans les médias audiovisuels français en pourcentage? Est-ce que, donc là c'est audiovisuel français, est-ce que c'est 35%, est-ce que c'est 45% du temps de parole ou est-ce que c'est 50% du temps de parole en 2020?
Ça comprend quoi en fait? C'est vachement large le temps de parole.
C'est moi qui pose les questions, Julia. Le temps de parole, voilà, des femmes qui ont été invitées sur les jeux à la télévision.
Genre
la
télé-réalité et tout, ça compte pas, enfin les trucs
non.
Comme ça.
Non.
C'est quoi ton chiffre le plus bas? 35.
35.
Je pense que c'était même moins que ça, donc moi je dirais 35.
Ouais, je partirais là-dessus.
Elsa 35, Marie 35.
Moi j'ai pas écouté les réponses.
35, 45 ou 50?
Allez, 45.
45. Eh bien non, Julia, tu as perdu. C'est bien 35. Selon donc, la source, c'est le rapport du CSA et de l'INA de 2020, sachant que c'est en baisse, puisqu'en 2019, on était à 37% de temps de parole accordé aux femmes. Voilà. Donc, ça a baissé en 2020. Autre question, pendant les deux premières semaines du quinquennat d'Emmanuel Macron, donc en 2017, quel a été le temps de parole des femmes à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça a été 4%,
oh oui,
22% d'accord. 30%.
Ah oui, les chiffres sont pas ouf déjà, c'est incroyable.
Pendant les deux premières semaines, donc vraiment
les débuts
à l'Assemblée nationale,
ouais.
Les femmes ont parlé, quel a été leur temps de parole en fait?
Je dirais 4.
J'aurais dit 22, moi.
Elsa, 22, Marie, 4, ouais. Julia
4, allez.
4, et c'est 4, effectivement, ce qui est assez incroyable. Je pense que ce chiffre a dû remonter à la suite, mais pendant les deux premières semaines du quinquennat, beaucoup de testostérone, peu d'œstrogène. Le décompte a été fait par brut. Voilà. En 2020, à la télévision, combien y a-t-il de femmes dans le top 10 des personnalités qui ont eu la parole, c'est-à-dire qui ont été invitées à des JT, des journaux télévisés? donc dans ce top 10, est-ce qu'il y a eu 0 femme, 2 femmes ou 4 femmes ?
Des femmes invitées, hein ?
Oui.
T'as dit quoi ? 4 et ?
0, 2 et 4. Ou 4.
Ah oui, d'accord.
2 quand même. Okay. Je dirais 2.
Ouais, ou 2, ouais.
Eh bien non, c'est 0. Voilà. Dans le top 10, il y a 0 femmes dans les personnalités qui ont eu le plus la parole, qui ont été le plus invitées.
C'est qui, t'as la liste ?
La première femme arrive à la 11e place et c'est Agnès Buzyn qui, je rappelle, a quand même été ministre de la Santé. Et en 2020, on a eu quelques problèmes de santé, voilà. Mais elle n'arrive qu'à la 11e place.
Il y a un site qui existe, il y a un site qui existe qui est assez récent, qui s'appelle Les Expertes. Voilà, qui recense toutes les femmes expertes dans absolument tous les domaines. Donc il y a des journalistes, des universitaires, enfin historiens, sociologues, médecins, etc., etc., et qui sont spécialistes de d'un sujet ou plusieurs, et donc qui sont potentiellement invitables sur tous les plateaux, dans toutes les radios, etc. Et donc le site continue à se développer pas mal.
Ouais. Oui, effectivement, j'ai vu ça, je trouvais ça une super initiative et vraiment plus aucune excuse. Déjà que ce n'était pas une excuse parce que les femmes existent. Mais là, d'autant plus, sachant que les premières places du coup, de ce classement, c'est Olivier Véran, donc quand même autre ministre de la Santé, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, voilà, dans le top 3. Mais Agnès Buzyn arrive à la 11e place. Autre question sur France Inter. Attention, donc là, c'est un chiffre de moyenne entre 2010 et 2018. L'antenne est consacrée, donc sur France Inter, l'antenne est consacrée à 80% à la parole. Ça, c'est un chiffre donné. Dans ce temps de parole, quelle est la part de celle des femmes ? C'est toujours un peu la même question, mais là, on est ciblé sur France Inter, qui est quand même une radio majoritairement de parole. Quelle est la part des femmes dans cette parole ? Est-ce que c'est 25% ?
Journaliste et invité compris ? Je sais pas.
Oui. Oui. Voilà, des femmes qui parlent à l'antenne.
D'accord.
25%, 32% ou 48%.
Moi, je dirais 48 parce qu'il y a pas mal de dans leur grille, il y a pas mal de journalistes femmes.
Mm-hmm.
Moi, je crois qu'ils ont beaucoup travaillé ça aussi. Après, t'es sur un chiffre de 2018.
Ouais, c'est une moyenne entre 2010 et 2018. Hein.
Ah oui. D'accord.
C'est le chiffre moyen.
Entre 2010 et 2018. Ouais. Alors peut-être pas 48, peut-être un petit peu en dessous. Si on part sur 2010. Mais normalement, ils ont pas mal travaillé, ça, ouais.
Marie, ça va
aussi.
Oui. Ok. On est sur 32%.
Ouais, c'est ça.
Donc,
c'est
voilà. Vrai. 32%. Mais effectivement, il y a eu des efforts de fait, notamment dans tout le service public, en fait. C'est des données que j'ai trouvées où, en tout cas, quand on est une femme, on a plus de chances d'avoir la parole quand on n'est pas dans le privé. Mais on n'est que à 32% quand même sur France Inter. Bravo les gauchos. Je ne vous écouterai plus le
Alors,
matin.
Alors les gauchos, c'est un autre débat. On peut en faire une émission, mais enfin, on rit un peu centriste quand même.
Oui, effectivement.
Ça dépend quel horaire tu...
Je horaire, parle du 7-9, ce que j'écoute principalement.
Ouais, c'est même gentil de dire centriste.
Ouais, je sais, je suis dans un bon jour là, c'est samedi.
Toujours dans cette idée de temps de parole, vous l'avez compris, quelle est la radio où les femmes parlent plus? Et là, j'ai 3 propositions. Donc là, c'est un peu tout confondu, musical, tout ça. Est-ce que c'est Nostalgie? Est-ce que c'est France Culture? Ou est-ce que c'est Chérie FM? Donc pareil, les femmes... là, c'est pas genre quelles femmes sont diffusées, genre musicales. C'est vraiment le temps de parole des femmes qui travaillent là-bas. Est-ce que là où il y a le plus de femmes qui parlent, c'est Nostalgie, France Culture ou Chérie FM?
T'entends un petit France Culture?
J'aurais dit France Culture. Culture.
Moi, j'aurais dit Chérie FM, je sais pas pourquoi.
Eh bien, c'est Chérie FM.
C'est tellement une radio de femmes, quoi.
Je sais pas. Non, pourquoi ?
J'entends pas trop les gens parler sur Chérie FM. J'entends souvent de la musique.
C'est ça, en fait. La corrélation est assez incroyable. C'est que c'est la radio où il y a le plus de musique. Genre, on est à 80... il y a 19% d'antenne, de paroles à l'antenne. Donc, le reste, c'est 80% de musique, en fait. Mais dans ce petit temps de parole, il y a 51% de femmes. Et c'est la seule radio française où ce chiffre dépasse 50%.
Wow.
C'est la seule radio. C'est le plus haut, en fait. Il faut aller sur Chérie FM pour entendre les femmes. Voilà. Et puis, pour terminer, en 2019, parmi justement, comme tu le disais, Elsa, tout à l'heure, les expertes et experts invités dans les médias, combien en pourcentage y avait-il de femmes en 2019 dans les experts invités ? Est-ce qu'on est à 24%? 38% ou 45%.
Normalement, c'est un chiffre qui a progressé aussi. 30
donc,
quelque chose.
38.
Je dirais 24 quand même.
24, ouais.
24 aussi, allez, soyons pessimistes.
Et non, c'est Elsa qui a raison, 38%. Donc ça, c'était en 2019. Et petite mini question, parce que c'est assez... je vais pas dire le mot, sinon voilà. En 2020, on était à combien ? D'après vous, entre 2019 et 2020, ça a augmenté, ça a baissé.
Non, ça a baissé, parce que le problème, c'est que les médecins, les virologues, les machins et tout, à cause de la crise sanitaire, c'est majoritairement des hommes, vu que c'est des hommes qui accèdent. Enfin, il y a plus d'hommes à ces fonctions-là, donc d'emblée, ça a dû baisser, en fait.
On est tombé à 20% en 2020.
Ouais, ouais,
c'est... voilà.
Mais ça, c'est l'effet crise sanitaire.
Ouais. Ouais, effectivement. Bien, c'est bien parce que je n'ai pas du tout compté les scores, mais on va dire que c'est Elsa qui a gagné parce que c'est notre invité.
Pas sûr.
Bravo, Elsa.
Est-ce qu'il y a des chiffres ou des choses qui vous ont un peu interpellé là dans ce que j'ai sélectionné ? Est-ce que vous pensez que c'était, je sais pas, justement cette place des femmes, donc quand vous écoutez la radio ou quand vous regardez la télé, est-ce que vous faites attention à ça, vous, dans l'équipe ou...
Oula. Ouais, ouais, bah moi je fais attention à ça. J'ai l'impression de voir beaucoup plus de femmes. Enfin, moi je suis plus vieille que vous, tout en passant. J'ai l'impression de voir beaucoup plus de femmes qu'avant, c'est sûr. Mm. Donc, quand on atteint les 30, 40, enfin, je pense que ça monte doucement. Après, mon problème, c'est bien si on atteint 50%, mais pas si c'est pour dire des conneries comme sur CNews, sur une femme ou un homme. Franchement, moi oui. Je m'en fous en fait. Enfin,
c'est
du
sûr.
Coup, ouais, ouais, si je fais attention quand même. Ouais.
Mmh. Bah, ces news, on est quand même très masculin, mais oui.
Ouais, ouais, oui, bon, enfin, en même temps, elles sont un peu pourries aussi. Enfin, c'est un ensemble, quoi, ces news. Donc, de toute façon,
oui. Envoyé. Voilà.
Toi, Marie, est-ce que tu fais un petit peu attention ou plus qu'avant, ou qu'est-ce que t'en penses de
Oui, je dirais que c'est même il y avait un petit côté épidermique ces derniers temps que j'essaye de réfréner, de voilà, force de... C'est surtout au niveau des invités, en fait, je trouve. Effectivement, au niveau journalisme, bon, on sent quand même une évolution positive. Mais au niveau des experts invités, le fait de voir des plateaux remplis de messieurs et très rarement de femmes, j'avoue que ça a tendance à mettre un peu sur les nerfs.
Je comprends, je compatis.
Ouais, mais moi, je rejoins mes collègues. Hein, je ressens la même chose, cette espèce de frustration et de se dire pourquoi on en est encore là aujourd'hui, même si ça progresse, évidemment, c'est clair. Je pense qu'avant, c'était encore pire, évidemment. Mais moi, notamment en radio, je me souviens que j'ai plus des souvenirs plus jeunes où je me disais, par exemple, quand j'écoutais Skyrock ou...
Alors, Skyrock, c'est... très mauvais élève, temps de parole des femmes.
Ah oui, parce que je me disais, merde, il y a que... je me rappelle, il y avait une femme... Et en plus, c'était représenté, c'était la femme, quoi, tu vois.
Donc, la chouffette de la radio.
Voilà, c'était la chouffette. Très mauvaise représentation. Et du coup, peu de modèles. Enfin, toujours le même, circuit, quoi. Peu de modèles, donc peu de déclics qui se font dans la tête. Donc, peu d'accessions. Ouais. Mais quand même, ça c'est boule. Enfin, ça, notamment sur France Inter, au final, moi, c'est une radio que j'écoute. C'est l'une des radios que j'écoute le plus. Que ce soit le matin, non pas trop le matin, mais c'est un petit peu quand même, si, mais je sais pas, des fois j'écoute, mais souvent je remarque que c'est aussi le cas, par exemple il y a Julia Foyce ou il y a, comment elle s'appelle, quand il y a des journalistes femmes qui interviennent, des fois c'est pour des petits encarts ou c'est pour des petits sujets précis, genre l'écologie ou le féminisme, et ça je trouve ça intéressant. Sonia Duvillère, la culture, voilà.
Médias.
C'est assez marrant, en fait. Enfin,
c'est des domaines.
Peut-être pas à l'inverse. Par exemple, une émission gérée, présentée essentiellement par une femme, et puis un petit encart, un homme parle. Alors, c'est pas. Enfin, voilà, je trouve ça intéressant, mais voilà, c'était une réflexion que j'avais eue. Je ne saurais pas en dire plus, mais voilà.
D'accord. Très bien.
C'était ma petite.
Je te redonne directement la parole, puisque c'est l'heure de ta chronique. Je crois que tu vas nous parler de la presse dite féminine.
C'est ça. Alors aujourd'hui, comme Romane m'a lancé, merci Romane, je vous propose de vous intéresser à la presse dite féminine en France. Comme le thème d'aujourd'hui, ce sont les femmes et les médias, pourquoi ne pas parler des médias dits féminins, et plus particulièrement de la presse écrite, je précise. Moi je ne vais pas parler du web, je ne me suis pas intéressée, c'était essentiellement écrit. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on ? Donc en France, il existe environ une cinquantaine de magazines dits féminins, par exemple les plus connus, Elle, Biba, Cosmopolitain, Avantage, Bien dans ma vie, Esprit Femme, Madame Figaro, Marie-Claire, Grazia, Cosette, Muse, Mode et Travaux. Oui, Mode et Travaux, ça existe. Le Journal des Femmes, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, comment et quand est née la presse féminine ? Quel est le commencement ? Eh bien, les origines de la presse féminine remontent même au mouvement d'émancipation des femmes qui a eu au XVIIIe siècle, en fait, où les premières apparitions, les premières publications de journaux dits féminins apparaissent, en fait, dans cette idée qu'à cette époque-là, les femmes, prennent une place dans la société et du coup, on veut les accompagner dans leur quotidien. On veut créer du contenu pour elles et du coup, on leur crée le Journal des femmes en 1759. Ou encore les Annales de l'éducation et du sexe en 1790. Alors la Révolution française sera particulièrement propice à l'éclosion de nouveaux titres comme les Étrennes nationales des dames, etc. Alors là, je fais un petit peu une coupure, c'était vraiment pour vous indiquer le début. Voilà. Mais au fur et à mesure en fait, que ces journaux apparaissent, il y a quand même deux mouvements qui se créent. Il y a le mouvement féministe, donc féministe de l'époque, hein, j'entends, qui se développe. Donc il y a une presse féministe qui existe aux côtés d'une presse dite féminine. C'est comme ça qu'ils ont appelé une presse plutôt traditionnelle. Qui, par exemple, cantonne encore les femmes dans le rôle de la petite ménagère avec, par exemple, le Petit Courrier des Dames. Mais par exemple, si on prend le mouvement féministe à l'époque, ça avait beaucoup de succès, notamment en Angleterre, avec The Lady, The Lily, The Genius of Liberty, ou en France, La Belle Assemblée, ou L'Opinion des Femmes. Voilà. Donc, retour au XXe siècle. Donc, les premiers magazines de presse, donc les magazines qu'on a encore aujourd'hui, en fait, apparaissent au XXe siècle, avec le premier magazine qui est Femina, créé par Pierre Lafitte en 1901. Donc créé, alors oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que les premiers journaux, comme les premiers magazines, ont été créés par des hommes. Mm-hmm. Puisqu'à l'époque, bah, c'était eux qui avaient la mainmise sur les publications, sur la rédaction, etc. Et voilà, après, s'en est suivi Marie-Claire en 1937. Voilà, très très vieille Marie-Claire. Et elle, en 1945. Voilà. Alors aujourd'hui, la presse féminine, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une cinquantaine de revues et autres magazines, tous plus ou moins portés sur les thèmes suivants. Cuisine, mode, déco, astrologie, bien-être. Et qui relaye bien souvent des clichés comme l'idéal de beauté, la minceur, la sexualisation, l'objectification du corps de la femme par exemple. Ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Alors, je tiens, sans compter les autres catégories de presse qui sont associées aux lecteurs féminins, c'est-à-dire que ce n'est pas des presses dites féminines, ça ne fait pas partie de la presse féminine, mais ce sont des publications comme la presse People, les journaux de psychologie, de jardinage, etc., même de cuisine, qui sont pas dites, qui font pas partie de la presse féminine, mais qui sont reliées au lectorat féminin. Alors, au-delà de ces a priori, qu'en est-il réellement de tous ces clichés ? La presse dite féminine est-elle, de par son concept même, un objet sexiste ou au contraire un moyen d'émancipation des femmes ? Favorise-t-elle la conservation d'une société fondée sur la division des inégalités des sexes ? Ce sont toutes les questions que je me suis posées avant d'entamer cette revue de presse et je peux vous dire que ça a été une partie de plaisir puisque je n'ai pas réussi à répondre à toutes ces questions, bien évidemment. Mais pour tenter d'y répondre, je vous propose une mini revue de presse effectuée par Miss Swain, sponsorisée par personne, et qui sera entièrement basée en tout et pour tout sur 5 magazines donc, qui sont Elle, Femme Actuelle, Marie-Claire, Paulette, Madame Le Figaro et Cosette. Alors je tiens à préciser que cette revue de presse n'a aucune visée scientifique, elle n'est ni pas du tout objectif ni représentatif puisque le choix des magazines repose sur deux critères suivants. Mon porte-monnaie et le rayon du marchand de journaux Prestabat Le Gralin, place Gralin 44000 Nantes. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour vous donner un aperçu de ce que la presse féminine française a à nous offrir donc, parmi les 5 magazines que j'ai choisis, évidemment, je me suis intéressée à la couverture d'une part et le squelette, c'est-à-dire le sommaire, c'est-à-dire quel type d'informations sont proposées, avec quel thème. Et si on a un peu de temps, je vous parlerai des pubs, parce que c'est très intéressant aussi. Alors, ce qu'on peut en dire, Julia,
courage.
C'est que, en fait, j'avais commencé à faire une feuille par, enfin, un dossier par magazine, sauf que je n'aurais pas le temps de vous parler de tout ça. Cependant, moi, ce que je peux remarquer au final, c'est que, alors, je répète que c'est mon analyse, hein, c'est mon histoire, c'est mon analyse. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même deux types. Par rapport aux origines, je trouve qu'on parfois on est resté sur ces deux mouvements de magazines féminins. Il y a la presse dite féminine classique qu'on retrouve chez Elle, Elle, Marie-Claire, Femme Actuelle, Biba, Cosmo, etc. Et puis il y a la presse un peu plus axée féministe, si on peut on en parlera,
nuancer.
Mais à nuancer, ouais. Évidemment, parce que voilà, le féministe, voilà, c'est un sujet très large aussi et sujet à débat. Donc moi, je mettrai notamment Gaze, les déferlantes et
la déferlante.
La déferlante, pardon.
Les déferlantes, c'est joueuses de basket de rue.
Les déferlantes, c'est autre chose. Merci.
Oui.
Voilà. Après, il y a Cosette et Paulette qui peuvent se mettre aussi dedans à discuter. Donc voilà, pour moi, il y a quand même deux... On est sur la presse féminine qui est quand même très, très différente parce que... Alors là, je vais parler de la presse dite classique. Pour moi, ce qui ressort le plus, c'est le problème des thèmes qui sont extrêmement récurrents. C'est pas les thèmes en soi qui sont problématiques. Je veux dire, c'est génial de parler beauté, de parler bien-être, de parler mode, de parler... On parle de ce qu'on veut, en fait. C'est génial. Enfin, il n'y a pas de thème à censurer, aucunement. Par contre, de toujours les relier au sexe féminin, pour moi, c'est très rageant parce que personnellement, je me suis jamais reconnue dans ces magazines-là. Donc, je trouve ça encore un peu arriéré et un peu usant de retrouver toujours les mêmes thèmes, comme si les femmes étaient intéressées que par ces thèmes-là, ou comme si on pouvait pas s'intéresser à une vraie actualité ou une vraie des sujets sociétaux, des sujets sociétaux, pardon, la finance, etc. et tout. Donc, de toujours traiter ces sujets en plus de façon commerciale, c'est-à-dire que en fait ce qui se passe c'est que pour moi en tout cas ce qu'on remarque et de plus en plus et notamment dans la presse écrite, là je parle bien de la presse écrite, c'est parce qu'en fait comme les journaux se vendent de moins en moins, les magazines se vendent de moins en moins, qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de pubs, on nous pousse de plus en plus à l'achat. Et notamment l'achat de luxe, les choses qu'on ne peut pas s'acheter. Donc, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Il y a le problème du thème, le problème du traitement du thème, parce que même les thèmes qui sont abordés, je trouve qu'ils sont pas forcément toujours pertinents, toujours bien creusés, parce que les journalistes n'ont pas forcément le temps ni les moyens de faire des articles de qualité. Et il y a aussi, évidemment, le problème de l'image de la femme, des femmes, pardon, toujours ces standards qui aujourd'hui n'ont plus vraiment de pertinence, le standard d'une femme blanche, mince, jeune, épilée, etc. Très peu de diversité dans les médias féminins classiques. Et voilà, donc comme j'ai plus beaucoup de temps, je vous passe ce que j'ai lu. Donc il y avait beauté, les secrets des femmes bien dans leur corps, silhouette et bien-être, quel complément alimentaire pour quel problème, ou alors cultivons la légèreté. Parce que oui, non, maintenant, on dit plus, on ne met plus le mot régime, on ne met plus le mot mincir. On met silhouette et bien-être, quel complément alimentaire. Ou alors beauté, le secret des femmes bien dans leur corps. Et après, par contre, quand on rentre dans l'article, on voit, oui, le ventre plat, mincir, etc. Mm-hmm. Donc il y a toujours ces injonctions qui sont un petit peu plus subtiles qu'avant, j'ai l'impression, à correspondre aux standards de beauté et à mettre une charge mentale assez énorme aux femmes. Moi, je vous jure, quand j'ai lu... elle ou je sais plus Marie-Claire. Pourtant Marie-Claire, ça va, j'étais agréablement surprise, mais j'étais fatiguée après parce que il y avait tellement de entre les pubs, les images, les articles, j'étais fatiguée de tout ce qu'on nous demande en fait. Genre il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut acheter ci, il faut acheter ça. C'est incroyable. Et non Marie-Claire, je ne veux pas tester la chirurgie esthétique. Voilà, c'est un thème qui est récurrent. Non femme actuelle, ouais. j'ai beau chercher, je ne trouve pas de galaxie parallèle où je remplirai le test. Quel est votre test veineux? Non.
Votre test veineux.
C'est pour tester ses veines, genre quelle veine on a. Voilà, genre c'est. Après, en fait, voilà, là je me fais c'est une critique vraiment de ce genre de magazine, parce que pour moi, j'en ai marre, en fait. C'est un peu un ras-le-bol, j'avoue. Mais voilà, ce que je veux retenir, c'est que en gros, ce ne sont pas les thèmes le problème, c'est plus comment ils sont traités et qu'ils soient genrés, qu'ils soient... Pourquoi s'occuper de la maison, pourquoi la beauté, pourquoi le bien-être, ce sont encore des choses qu'on associe aux femmes. Pourquoi on leur met ça? Et surtout, traiter de façon commerciale, c'est-à-dire nous pousser toujours à acheter du luxe, acheter des choses qu'on ne peut pas s'acheter, voilà, pour être toujours mieux, toujours plus belle, une bonne mère, une bonne épouse, une bonne... voilà. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de parler des autres magazines, mais, euh, Mais pour ma part, voilà, c'est pas. Alors, si je peux faire une toute petite. Moi, je suis vraiment pessimiste, hein, mais voilà. Une toute petite intervention sur certains magazines qui se disent. Enfin, qui ont pour vocation. Enfin, qui ont comme positionnement féministe. Alors, moi, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais je trouve, encore une fois, qu'il y a des thèmes. Mais c'est les mêmes thèmes, en fait.
Par exemple.
Bah, par exemple, Cosette, je suis désolée, mais Cosette ou même Paulette. Bon, Paulette, c'est. Eux-mêmes, ils le disent, c'est un magazine lifestyle et tout. Mais en fait, pourquoi encore les mêmes thèmes, en fait, pourquoi toujours les mêmes thèmes? Pourquoi il n'y a pas de magazine féminin qui parle de sport, de voiture et de... Enfin, là, je fais des gros clichés, tu vois, mais genre, c'est toujours les mêmes thèmes. C'est peut-être mieux dit, c'est peut-être plus approfondi, c'est peut-être au regard d'aujourd'hui avec des vrais témoignages, des... voilà. Mais moi, je suis désolée, mais moi, je ne me reconnais pas, tu vois, C'est pour ça que moi, je me dirige plus vers des magazines, ce que j'appellerais généraux, c'est-à-dire non-genrés, enfin, j'imagine, genre, je sais plus, Kaizen, Society,
Elle est pas le même registre.
Voilà, je dis pas que c'est mieux. En fait, je dis pas que c'est mieux, c'est juste que moi, perso, j'en ai un peu marre qu'on associe toujours les femmes au même thème et qu'en plus, ça soit pas forcément très bien fait. Voilà.
Et vous, Elsa et Marie, est-ce que vous lisez des magazines dits féminins, enfin, quel regard vous portez là-dessus, sur cette presse papier plutôt?
Vas-y,
En fait, je pense que pour moi, c'est ce que j'appellerais une presse complémentaire, en fait. C'est pas une presse d'actu, c'est pas une presse d'info, c'est quelque chose de complémentaire à une autre lecture, en fait. Donc moi, j'adore la mode et le maquillage, je suis très contente d'aller voir ce qu'elle me raconte sur les fringues tendances, et je suis très contente d'aller voir ce qu'on me raconte sur les tendances maquillage aussi. Donc, j'ai commencé dernièrement à écrire pour Marie-Claire, d'ailleurs, qui a beaucoup progressé sur les dernières années, progressé vite et fort, je trouve, dans un laps de temps assez court, y compris sur ses unes dernièrement. Elle avait fait la revue papier avait fait plusieurs unes différentes avec des femmes extrêmement différentes, issues de la diversité et tout. Alors, pas le dernier, effectivement, celui que t'as en main. Mais je lis que sur le web, moi.
D'accord.
Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un complément. D'autres choses après sur le web, en tout cas, parce que je pense que le print c'est un peu différent en termes de
c'est
le truc qu'on lit sur la plage, enfin bon, je grossis le trait, mais voilà, c'est pas les mêmes enjeux. Donc il y a effectivement toutes les rubriques sont apparues au fil des années, en tout cas sur le web, société, politique, écologie, etc. quoi. Donc pour moi c'est une presse complémentaire, je pense que si on lit que ça, évidemment, mais je ne sais pas s'il y a des femmes qui lisent que ça. Si, j'imagine. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de complémentaire. D'accord. Et il y a des progrès.
Ouais. Toi, Marie, quel rapport tu as avec cette presse plutôt papier, du coup, print
Oui. Alors, plutôt papier, genre, aucune relation, vraiment.
Aucune relation.
Ouais, non, plus sur
non, je ne lis pas du tout. Déjà, de presse papier, c'est très rare. Je suis plutôt sur le format, effectivement, web. Les unes ont tendance à me hérisser légèrement quand je passe devant les chers marchands de journaux. Par contre, il y a un côté très intéressant à la presse féminine web, je trouve, c'est que c'est la seule presse à aborder des questions comme par exemple les alternatives un peu naturelles et éco-responsables à plein de choses. C'est essentiellement dans la presse féminine qu'on va trouver des articles accessibles sur voilà, comment on fait ses cosmétiques maison. Des choses toutes bêtes hein, qui peuvent paraître aussi très genrées, mais il y a un côté intéressant qui est pas, c'est un créneau qui est pas forcément pris par d'autres magazines.
D'accord.
Alors, pardon. Oui. Non, si je peux rajouter quelque chose quand même qui me paraît important, parce que tu les as cités un peu, Julia, c'est qu'il y a quand même depuis un an ou deux, donc on est vraiment sur un laps de temps vraiment hyper court, je dirais même un an, parce qu'il y a eu crowdfunding et il y a eu repoussage, ça se dit pas, mais voilà, vous comprenez, de sortie de revue print, pour le coup, très belle, féministe, et là, pour le coup, vraiment, mais qui sont ancrées sociétalement vraiment dans leur temps, avec des articles vraiment de fond, à tendance sociologique, historique très poussée. Du coup, tu as cité La Déferlante, qui est vraiment excellente. Mais là, on est sur du MOOC presque, parce qu'on est à 20 balles la revue, sortie en librairie, etc. Tu as cité Gaze. Alors moi, j'aime moins, mais parce que c'est très visuel.
C'est plus pareil, enfin, c'est pas les mêmes contenus.
On est vraiment sur beaucoup de photos. Et il y a aussi Les Ours à Plumes, alors qui est beaucoup plus confidentielle et très militante. Et il y a aussi Woman Who Do Stuff, qui est aussi une revue papier. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est du crowdfunding, c'est des journalistes, c'est que des meufs derrière. Souvent que des meufs bien badass et bien féministes. Et là, on est sur une autre proposition. Mais là, on parle d'une presse de niche et qui est extrêrement
presse
récente.
Féministe plutôt, tu dirais, comment on pourrait...
Alors La Déferlante, le sous-titre, c'est la revue des révolutions féministes. Donc oui, clairement, on est sur du... on est sur du gros niveau, en fait. J'en ai oublié une. Deuxième page, pardon, j'en ai oublié
une.
Voilà, donc on est sur, à la lecture de la déferlante, on est vraiment sur du high level en termes de presse et d'enjeux et de sujets hyper contemporains, en fait. Et c'est très pointu. Donc on est vraiment sur autre chose, on n'est pas sur du Cosette et du Paulette. Moi, je n'adhère pas... j'adhère pas en tant que lectrice à ça, c'est très personnel, encore une fois. Voilà, donc ça, c'est vraiment de la très belle presse féministe.
Oui, Gaze, par exemple, j'avais noté sur leur site internet, ils disent que Gaze n'est pas le journal du débat féministe, mais une porte... Pardon. Gaze n'est pas le journal du débat féministe, mais une porte d'entrée sensible et inspirante dans un féminisme inclusif et intersectionnel.
Oui, oui. Puis on est vraiment sur quelque chose de très visuel, de très travaillé en termes d'infographie.
C'est très beau.
Ouais, c'est très... Je l'ai en papier.
Très beau.
Et toi, Romane ?
Très bien. Oui.
T'as un petit avis ?
J'ai un petit avis très, très rapide, puisqu'il est midi 42. Moi, j'adore. Je commande. En fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai vraiment l'impression de faire partie, effectivement, depuis un an, je vois plein de projets à financer, etc. J'en ai financé, j'ai aidé au financement de quelques-uns et j'adore. J'ai l'impression de. Ça y est, genre, il se passe un truc. La déferlante, j'ai trop kiffé. Deuxième page, j'ai envie de l'acheter aussi. Enfin, deuxième
page.
Je kiffe. Et sinon, sur la plage, moi, j'étais une grande abonnée de Glamour hein, pendant que j'étais toute mon adolescence. Donc, ça m'a quand même pas mal construit. Et le livre de Lorraine Bastide, Présente, m'a bien aidée aussi à me dire que c'était normal à l'époque et que. Et à quel point ça a construit ma vision des femmes jusqu'à maintenant et que j'essaie de déconstruire petit à petit. Voilà. okay. Je vous propose de passer un mini morceau, petit morceau, petite coupure musicale, et puis on revient juste après. Life sucks and I never try suicide. Mind's fucked even more than I realize. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time and the next breed, if you're coming, come at me directly. Don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coasting overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here. From the mere fact that I've got ovaries, it's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour, never giving credit where it's due, cause you don't like pussy. And power, venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sending to the sky, it's just you and I. Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amounts. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not they enrolling with no automatic clips. Moving scatty, all erratic and shit. Niggas pussy looking batty and shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us, venom. Nighttime to daylight, we roll trees. Save lives and made minds that go deep. Oh, he wouldn't have guessed, I'm so chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's the day in the life of OGs. Dealing with inner demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go, so follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me, nobody bother me. I'm a mess, honestly, fuck all your policies. They wanna kick me down and demolish me. Use me or fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or am I in my own head? Can't tell anymore. Psychotic to the death. When I dig deep, I can never find that I left. It's a mystery. Rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice right here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True resist, stick up, hands in the air. Put the money in a bag. All cash, venom. De retour sur Prune 92 FM, vous êtes toujours avec Sisters. On écoutait Venom de Little Sims. On va passer à l'interview avec Elsa. Donc, je te représente un petit peu pour nos auditeurs et auditrices. Tu es journaliste indépendante nantaise. Tu écris notamment, attention, pour Médiacité Nantes, Vice, Le Monde Ado, Slate ou encore le Média Social ou Télérama et bien d'autres. Tu fais également partie du collectif Tu Piges, collectif féministe de journalistes pigistes qui traite de sexualité, santé et de divers mouvements sociaux. Tu as également cofondé une newsletter qui s'appelle TDS, écrit comme le féminin de Dieu, et qui fait donc qui traite donc de l'actualité des travailleuses du sexe. Est-ce que j'ai loupé d'autres choses? Je pense que oui.
Non.
Ça va?
Ouais, ça va.
C'est pas mal déjà.
Ouais. Je suis d'accord.
Voilà pour la présentation. Alors, première question pour toi, Elsa, que j'ai nommée la question de la housse pour sa qualité journalistique.
J'ai peur.
Qu'est-ce qui t'a... Ouais, ça fait peur. Pourquoi es-tu journaliste aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné envie?
Ah ouais, c'est la question piège, ouais. En fait. D'accord. Ouais, puis là, je suis obligée de parler de moi, du coup. Moi, je suis une ancienne travailleuse sociale. Mm-hmm. Je suis éducatrice spécialisée de formation,
ouais.
Et sociologue. Et du coup, c'était... Alors, ce qui est étonnant, c'est que je découvre récemment qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui penchent vers le journalisme.
D'accord.
Enfin, beaucoup. En tout cas, on a un certain nombre. Et après, on se dirige aussi un peu vers l'éducation aux médias. Alors, je pense que voilà, tout ça est lié à notre métier. Du coup, j'ai l'impression que c'était une continuité logique. Enfin, c'est venu naturellement parce que je continuais à donner la parole, finalement, à des gens qui n'avaient pas beaucoup la parole, finalement, à des minorités ou des gens qui ne pouvaient pas la prendre. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Enfin, c'est la socio, du coup. À la fin de la socio, c'était une évidence pour moi de commencer à écrire sur ce que j'aimais. Puis après, ça s'est élargi.
On a parlé depuis un petit peu le début de l'émission, donc effectivement, de notre thème, la place des femmes dans les médias. Toi, en tant que pigiste, donc, tu écris plutôt pour la presse papier ou le web.
Oui.
Est-ce que dans ces... Alors, comme tu es pigiste, tu ne fais pas partie d'une rédaction. Tu n'es pas rattachée.
Ou je fais partie de toutes, plutôt.
Ou de toutes les rédactions, voilà. Quel est ton rapport, justement, avec toi, ta place en tant que femme, ou de ce que tu as pu observer? Est-ce qu'il y a des comportements, des choses, des... Quel regard portes-tu là-dessus, d'un point de vue d'une pigiste?
Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, en étant pigiste, je ne suis pas dans la même rédaction tous les jours. C'est-à-dire qu'en gros, je suis sur mon canapé avec mon ordinateur, ou sur le terrain. Du coup, je ne suis pas dans une rédaction. Du coup, je ne suis pas confrontée potentiellement à des soucis. Alors, c'est arrivé à des pigistes, hein, mais il y a moins de risques quand même d'être confronté à un collègue relou, à un patron qui va être harcelant ou des choses comme ça, puisque je suis chez moi et que... alors, c'est ma situation à moi. Il y a des pigistes beaucoup plus précaires. Ma situation à moi fait qu'en plus, si ça se passe mal, bah, je me casse du média et puis j'arrête la collaboration et puis voilà. Et puis aussi, j'ai comptabilisé l'autre fois, avant que tu me proposes de venir, mais j'ai beaucoup plus de rédactrices en chef femmes.
D'accord.
Dans les médias avec lesquels je travaille. En tout cas, j'ai beaucoup plus affaire à des femmes, et ça se passe très bien avec les hommes avec qui j'ai affaire aussi. Donc voilà, je ne suis pas, moi, confrontée à ça, mais c'est arrivé à plein de consoeurs, on le sait, et particulièrement en rédaction, effectivement, et particulièrement à des jeunes consoeurs qui débutaient. Enfin voilà, on voit sortir plein de trucs aussi, là, vous avez bien vu PPDA, tout ça, enfin voilà, comment les hommes ont pu asseoir quelque chose et comment des femmes ont eu peur et se sont voilà, ont été obligées de s'y plier parce qu'elles avaient peur pour leur carrière ou des choses comme ça. Je sais même plus si je réponds à ta question.
Si, tout à fait. Et justement, le fait que tu travailles en observant que tu travailles beaucoup avec des rédactrices en chef femmes, du coup, est-ce que tu penses que c'est lié avec les sujets que tu traites? Est-ce qu'à quel point toi aussi tu te sens est-ce que tu traites uniquement des sujets dont tu as envie? Alors, il y a deux questions.
Alors oui, je traite uniquement des sujets dont j'ai envie.
Ouais.
C'est un peu, y a plein d'inconvénients à être pigiste, mais il y a quand même des gros avantages, c'est bien celui-là. Donc oui, je ne propose pas d'articles que j'ai pas envie d'écrire, clairement. Après, je sais pas si c'est en lien. Je sais pas. En tout cas, elles sont à ces places-là. Des fois, il y a aussi un homme et une femme, et en tant que, ils se séparent les pigistes, hein, donc peut-être, voilà, des fois aussi, je tombe avec la femme, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou c'est peut-être qu'il y a de plus en plus de femmes finalement à ces postes de rédaction en chef, et que c'était. Moi, je suis journaliste que depuis 6 ans, 7 ans. Donc voilà, peut-être qu'il y en avait moins aussi avant, finalement.
Ouais.
C'est peut-être lié au... Non, c'est même pas lié aux médias, je pense pas.
Et est-ce que toi, en tant que femme, alors là, pareil, c'est un petit peu une comparaison, et je sais pas si tu as eu l'occasion de l'observer ou pas, mais en tant que femme journaliste, sur le terrain, ou face aux différentes étapes qui... Depuis la création de ton article jusqu'à la publication, est-ce que... Tu as rencontré des obstacles ou enfin est-ce que tu as observé notamment des différences avec un homologue homme masculin par exemple?
Alors moi j'ai pas eu la sensation, j'ai pas eu la sensation. Ça m'est arrivé quelques fois quand j'étais en PQR, en presse quotidienne régionale pardon, pendant plusieurs mois, enfin pendant plus d'un an, je sais plus. Sur le terrain tu vas pouvoir rencontrer, je sais pas, un maire un peu relou, elle est belle la journaliste, enfin voilà. À part ça, honnêtement, moi, je ne l'ai pas vécu et je ne le vis pas non plus sur le terrain. Je suis beaucoup dans les mouvements sociaux, les manifestations. Oui. Et je ne le vis pas du tout.
D'accord. En fait.
Mais là, je pense que c'est plutôt lié aux médias. Moi, je suis indépendante, je n'arrive pas avec ma grosse bonnette BFM.
Ouais.
Et ça passe sans doute mieux aussi auprès des gens. Enfin, là, je pense que ce n'est pas, c'est pas mon genre. Du coup, c'est plus le média, des fois, qui va être rejeté ou qui va être accepté, en fait.
Ouais. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que, justement, le fait de voir arriver ces nouveaux et très féministes médias... Est-ce que toi, ça te donne envie de... Est-ce que tu écris dedans, par exemple ? Est-ce que tu as
oui, j'ai un article prévu sur, dans Woman Who Do Stuff et un autre article prévu dans La Déferlante.
Ouais.
Ouais, c'est clairement des médias qui me donnent très envie d'écrire. C'est du format long.
Mm-hmm.
C'est très poussé. Ça me demande beaucoup de recherche, beaucoup de lecture et j'adore ça.
Ouais.
J'ai vraiment l'impression de faire mon métier plus profondément quand j'écris là-dessus. Après, c'est... aussi un choix. Je comprends les gens qui sont au desk et qui écrivent des papiers, 15 papiers d'actu par jour, mais c'est pas mon truc. Mais je reviens sur... Enfin, non, je sais pas si on a parlé de ça, mais si c'était avant l'émission, du coup, je faisais référence au documentaire de Marie Portolano, qui est donc une journaliste sportive connue et qui disait, je suis pas... son documentaire, qui est intéressant d'ailleurs, qui dit, je ne suis pas une salope, ouais. Je suis journaliste. Alors d'ailleurs, j'ai un problème avec le titre. Elle nous écoute pas, mais si elle m'écoute, je suis pas d'accord avec ce titre-là en fait. Je pense qu'on peut être une salope et une journaliste. Je pense qu'on peut être une salope tout court. Enfin, c'est pas péjoratif pour moi le terme en tout cas. Donc ça me gêne un peu ce titre. Mais au-delà de ça, il est vraiment très intéressant et on entendait bien que c'était compliqué, que c'est très compliqué encore d'être une femme dans le journalisme sportif aujourd'hui. C'est marrant parce que j'ai fait l'émission sport un peu de prune.
Ouais.
Il y a quelques années et du coup, je me suis trimballée pas mal. Dans les tribunes presse de la Bougeoire, du handball et tout ça quoi. Et du coup ouais, c'était compliqué.
Là c'était compliqué.
Enfin, c'était compliqué. J'ai pas eu de remarques tout ça, mais c'est juste tu sens bien que t'es pas légitime à être une femme à te balader dans les tribunes presse des clubs de sport quoi.
Ouais.
Ouais.
Moi je crois que dans le temps de parole, alors si je reviens à mes chiffres de tout à l'heure, l'équipe 21 est dans les chaînes télé, c'est donc chaînes de sport. Là où les femmes ont moins le temps de parole aussi, effectivement.
Oui, ouais, c'est sûr. Puis ils ont encore un problème. Ils travaillent, hein, mais ils ont un problème sur leur une. C'est-à-dire que si des femmes dans le sport vont gagner genre une coupe, avoir la médaille d'or, elles vont être tout en haut. Hein, elles vont pas faire la une, elles vont être dans le petit encart. Elles vont être en une, mais dans un petit encart. Quoi. Bon, ils ont encore un problème là-dessus. Quoi.
Et pour terminer, est-ce que tu aurais justement un conseil, lecture, film, documentaire pour nos auditeurs et auditrices sur ce sujet-là, plus global, je sais pas, du journalisme, des femmes dans les médias, etc. Ou est-ce que tu...
Là, comme tout de suite, ça ne me vient pas.
Ouais.
Si ce n'est de regarder le documentaire dont on vient de parler, évidemment. Ouais.
T'as une newsletter ?
Bah, c'est pas trop le sujet, mais pourquoi
c'est
pas,
bah, c'est féministe, hein, c'est sûr que c'est une newsletter féministe. Ouais. Hein. Mais je voulais quand même dire que je pense, pour être beaucoup sur Twitter, que les femmes journalistes sont quand même beaucoup plus attaquées sur ce qu'elles racontent que les hommes journalistes. Ça, c'est encore une évidence. Et de deux, je le remarque parce que moi, je montre très peu mon visage. Je pense que les femmes qui font des vidéos, je vois bien sur des consoeurs qui disent régulièrement qu'elles sont cibles de harcèlement et de messages privés sur leur physique, que ce soit positif ou négatif, genre t'es bonne ou t'es moche, enfin peu importe, ou t'es grosse ou etc. Du coup, je pense qu'elles sont beaucoup plus la cible de ça encore. C'est une évidence que les hommes. Je ne pense pas qu'ils reçoivent des messages privés comme ça sur Twitter ou ailleurs pour dire ah, dis donc, t'es beau gosse ou alors putain, qu'est-ce que t'es moche. Je pense qu'en fait, d'emblée, c'est quand même, au lieu de les attaquer sur le fond de leur travail ou leur article, parce qu'on a le droit d'être en désaccord avec un papier, moi ça ne me pose pas de problème, voilà, elles se font quand même encore beaucoup...
Le physique, ouais.
Ah bah tout le temps, ouais, en fait. Ouais.
C'est juste parce que c'est des femmes, enfin voilà, c'est pas...
Oui, c'est ça. Alors qu'on vienne, mais leur travail va être plus critiquable aussi, de fait, je sais pas, on va s'accorder, on va plus facilement critiquer le travail
aussi,
des femmes.
Genre,
quoi.
Ah bon, t'es sûre ? Non, mais...
Ouais, c'est ça.
Une légitimité moins solide par principe, quoi.
Ouais, ouais, ça c'est encore certain, et ça se voit très bien sur les réseaux sociaux. Ouais.
On a encore de quoi dire, effectivement. Moi, je reproposerai le côté cyberharcèlement pour une autre émission. Un sujet qui n'est pas encore été validé par le comité de Sisters, mais bientôt pour l'année prochaine. Ouais. Eh bien, Marie, tu as 5 minutes pour faire ta courrier.
Merci. Heureusement que je l'ai faite un petit peu plus courte que d'habitude. J'espère. Alors aujourd'hui, du coup, c'est devinette. Donc, je vais vous donner quelques indices concernant la personne dont je vais vous parler et à vous, chers auditeurs, et vous ici aussi, de trouver son identité. Donc top, je nais en Pennsylvanie en 1864, mon père meurt quand j'ai 6 ans et mon beau-père est violent et alcoolique. Oui, j'ai un choix de départ dans la vie. Je n'ai pas assez d'argent pour étudier et devenir institutrice, mais je deviendrai une pionnière du journalisme d'investigation et serai même élevée au rang de vedette dans les années 1880-90. Je suis...
Je ne sais pas.
Bah, Nelly Bly.
Nelly Bly. Enfin, ouais. Ouais. C'est ce que je... Elle n'a pas 36, en même temps, c'est la première journaliste d'investigation. Donc,
Si vous n'avez pas la réponse, hein, c'est normal. Ceci dit, voilà. Nelly Bly, en fait, elle fait partie de ces semi-remorques de femmes dont l'histoire n'a gardé qu'une trace minime, malgré des accomplissements faramineux. Donc, je vous propose de rattraper ça tout de suite avec un aperçu de sa vie et de son œuvre. Donc, Nelly Bly, c'est un nom de plume qu'elle adopte au début de sa carrière de journaliste. Mais du coup, quand elle est encore Elizabeth Jane Cochrane, elle rêve de devenir institutrice tout en se préparant, faute de pouvoir étudier, à devenir gouvernante. Mais le destin n'en a pas envie visiblement, puisqu'à 16 ans, donc, elle écrit des poèmes, elle lit des journaux. Et dans un de ces journaux, elle tombe sur un article intitulé « Ce à quoi les jeunes filles sont bonnes ». Bon, a priori, la réponse n'était pas à tout dans l'absolu. Tout dépend de leurs compétences individuelles et ce qu'elles aiment faire, puisqu'Elizabeth rédige une lettre courroucée au rédacteur en chef et lui propose un duel de Muay Thai pour régler ça comme des bonhommes. Non, ça, c'est pas vrai. De toute façon, les filles, elles savent pas se battre, alors bon. Mais elle était colère, quand même. Bref, le rédacteur en chef trouve sa réponse tellement cool qu'il l'embauche. Hashtag plein emploi. Elle signe ses articles Nelly Bly, donc elle commence par raconter la vie des usines, les terribles conditions de travail des ouvrières et des ouvriers, et de l'intérieur, puisqu'elle se fait embaucher donc pour accéder à ces usines.
Elle fait la même chose en hôpital psychiatrique.
Oui, ce sera dit après, ah, merci de spoiler.
J'ai fait du woman interrupting.
Donc c'est très bien, c'est participatif, c'est super. Et par contre, elle est rapidement donc reléguée aux pages jardinage, suite aux pressions des industriels sur le journal. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se résigne à parler bégonia alors qu'elle s'en fout des bégonias? Eh ben non, elle se taille au Mexique. Et je rappelle qu'on est à la fin du 19e siècle. Hein. Le Mexique, c'est plutôt roots à cette époque. Et donc là, elle enquête sur la corruption des dirigeants mexicains. Et du coup, elle se fait expulser du pays. Peut-être qu'elle aimait ça, au fond. Vraiment. Ce qui est drôle, c'est que le récit qu'elle fait de son séjour au Mexique a une construction qui est très surprenante, du coup, pour les lecteurs actuels. C'est un mélange de guide touristique, d'impressions personnelles, de compte-rendu d'investigation. Elle décrit par exemple au début la ville de Mexico, donc façon guide du routard poétique. Je cite « La ville est identique sous toutes les coutures, chacune de ses rues blanches aboutit au pied d'une montagne à la cime enneigée qui partout accroche le regard. Les rues, les pâtés de maisons et les squares portent des noms qui plongent les étrangers dans une grande perplexité. » Mais quelques pages plus loin, on lit, je cite « Certains Indiens sont arrachés à leur milieu et enrôlés de force. Ils se résignent aussitôt à leur sort, conscients qu'ils n'ont pas plus de chance d'y échapper que s'il s'agissait de la mort. Les épouses de ces pauvres bougres sont extrêmement loyales, on les voit souvent suivre le régiment de leur mari. C'est un crève-cœur que de voir une pauvre indienne, un bébé attaché dans le dos, un autre accroché à ses basques poussiéreux, affamé, les pieds écorchés, parcourir des kilomètres sous un soleil brûlant. » Là, ça fait plus meeting d'Olivier Besancenot au bon vieux temps du NPA. Clairement, et paye ton début de siècle. Donc à son retour aux États-Unis, Nelly file à New York et se fait embaucher dans un journal tenu par, je vous le donne en mille, Joseph Pulitzer. Oui, le monsieur du prix Pulitzer. Et là, c'est le grand déballage de talent, le début de la fame. Elle se fait interner dans un asile pour femmes pour enquêter sur les conditions de vie dans l'établissement et son récit choque tellement que la ville débloque $1 million pour améliorer le traitement des malades. Ensuite, elle infiltre l'équipe d'un narcotrafiquant se déguisant en homme, fait le tour du monde en 72 jours et deviendra quelques années plus tard la première femme à couvrir l'actualité du front Est pendant la Première Guerre mondiale. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ces histoires passionnantes plus en détail si vous en avez envie dans le livre qui regroupe donc plusieurs de ses récits, Les aventures de Nelly Bly aux éditions Point.
Il y a une bande dessinée qui s'appelle Nelly Bly et qui raconte juste l'épisode de l'hôpital psychiatrique.
Okay.
Elle est hyper bien. À partir de 11-12 ans, et même pour nous, je veux dire, ça marche. Nelly Bly, tout court, elle est hyper bien, la BD.
Cool. Okay, cool. Bah, merci pour la recommandation. Donc du coup, le journalisme doit beaucoup à Nelly Bly, donc, parce qu'elle a tout simplement fait partie des précurseurs du journalisme d'investigation. Elle est la première femme à l'avoir pratiqué. Le fait d'aller sur le terrain pour enquêter, de s'infiltrer dans un milieu, de parler de sujets et de publics habituellement méprisés, donc les personnes défavorisées, les femmes, les minorités ethniques, c'était très inhabituel au XIXe siècle. Elle a pratiqué un style qu'on appelle aujourd'hui le gonzo-journalisme, donc un journalisme ultra subjectif, avec des articles rédigés à la première personne et un reporter qui est également un protagoniste à part entière de son récit. Elle participe aussi, Nelly Bly, au début de la presse à Sensation et à Feuilleton, donc ses récits comme celui au Mexique ou lors de son voyage autour du monde, étaient publiés article par article et les lecteurs suivaient la progression de ses enquêtes et de ses découvertes au fur et à mesure, avec juste un léger différé, rapport au fait qu'Internet était plutôt lent à cette époque. Tous ces types de journalisme donc, vont vraiment se développer largement dans les décennies qui suivent son décès en 1922, mais ce développement est permis par les quelques pionniers qui ont amorcé le mouvement et elle en fait partie. En conclusion, Nelly, c'est une ouf. Clairement, elle arrive à passer en quelques années de jeune fille qui anticipe un avenir professionnel frustrant à journaliste reconnue dans tous les États-Unis, au point que le journal pour lequel elle travaille à New York met son nom dans les titres de ses articles comme argument de vente. Et le message que je veux faire passer avec Nelly, c'est quoi? que si on veut des filles accomplies et estimables, on doit être badass, brillante, avoir une détermination mi-kevlar, mi-teflon. Ben non, bien sûr. Au fond, Nelly, elle a eu la vie qu'elle souhaitait et c'est ça le plus important. On a tendance à beaucoup se mettre la pression, à vouloir être des femmes parfaites au travail, à la maison, en société et j'en passe. Alors qu'au fond, ce qui compte, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, que ce soit sauver le monde d'une attaque nucléaire ou cuisiner des cupcakes. Quoi que vous ayez envie de faire, vous pouvez oublier la petite voix qui vous susurre que c'est pas pour les femmes ou que c'est trop un truc de femme ou que juste ça ne se fait pas parce que ce qui nous manque le plus à nous les femmes, c'est pas les muscles ni même un zizi. Parce que d'abord c'est nul et puis ça se coince et ça fait mal. C'est du sentiment de légitimité. Je vous laisse sur une leçon de Nelly à ce sujet quand elle a proposé à son rédacteur en chef de tenter de faire le tour du monde en 75 jours, qu'elle fera en 72 pour battre le record fictif de Phileas Fogg dans le tour du monde en 80 jours. Celui-ci a répondu. Vous n'y arriverez jamais, vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur, et même si vous voyagez seule, il vous faudrait tant de bagages que cela vous ralentirait. En plus, vous parlez uniquement l'anglais, rien ne sert d'en débattre, seul un homme peut relever ce défi. Et elle lui a dit très bien que l'homme débute sa course, je commencerai le même jour pour un autre journal et je le battrai. Donc il est revenu sur son refus et elle a explosé tous les records. Merci Nelly.
Ben merci Marie. Il est 13h02, nous avons dépassé l'horaire initial. Donc je vais vite vous dire au revoir. Merci déjà à Elsa, merci à toi d'être
venue.
Merci
Elsa.
Ouais, merci. Et puis merci à l'équipe Marie, Julia, Louise, on t'embrasse. Et puis on se retrouve le mois prochain, le dernier samedi du mois de juin, pour la dernière émission de la saison. À bientôt, ciao, bon samedi.
Bisous, bisous.
Bisous. I'm the bad guy.